France Inter.
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, comme un chemin de traverse, affaires sensibles remontent le temps. Parce que jadis, il y avait aussi des affaires sensibles, au XVIIIe siècle notamment. Parmi elles, une histoire vraie, bien sûr, bien que mystérieuse, a défrayé la chronique. Sur site et ailleurs, on ne parlait que de ça, la bête du Gévaudan, l'un des tout premiers faits divers exploités par la presse. Pendant 3 ans, dans cette région montagneuse de l'actuelle Lozère, des dizaines de personnes, en grande majorité des enfants et des femmes, sont dévorées par quelque chose, oui, quelque chose, que dans la région, puis dans le pays, dans l'Europe entière et jusqu'aux États-Unis, on appelle donc la bête du Gévaudan. L'horreur des faits, mais aussi le développement de la presse et des feuilletons médiatiques, font de ce fait divers un traumatisme transmis de génération en génération sur plusieurs siècles jusqu'à nos jours. Cette histoire se déroule dans les années 1760, 20 ans avant la Révolution, en plein siècle des Lumières. C'est un événement à contre-courant d'une époque, celle dont nous héritons, qui place les hommes au-dessus de la nature. Mais là, et pendant 3 ans, dans le Gévaudan, la bête qui mange le monde, c'est comme ça qu'on l'appelle, renverse la hiérarchie. Les hommes, prédateurs, deviennent soudain des proies. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Morisseau, professeur émérite de l'Université Caen Normandie, auteur du livre « La bête du Gévaudan, mythe, réalité », livre réédité en 2021 chez Talendier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, rédaction chez Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Denante, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
C'est un Daü.
Oh là là.
Ah oui.
Alors,
1967. La bête du Gévaudan, c'était une énorme bête qui mangeait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, de tout le monde elle mangeait. Et elle était très méchante, énorme. Alors ils essayaient de la tuer, mais c'était la bête qui tuait les gens. Ils y allaient à coups de fourche, avec des fusils, de tout. Ils n'arrivaient jamais à l'abattre. Moi, je n'aurais pas voulu avoir des frères, tout ça, qui soient mangés par cette énorme bête. Alors, je trouve qu'ils auraient dû la tuer de suite, mais quand même, c'était dur pour la tuer.
Venez ici en pierre. Écoutez, je vous prie. Le récit des horreurs, une bête en furie.
Le Gévaudan. Ici, tout est loin de tout. C'est un monde où le temps reste figé. Nous sommes sur un haut plateau, non loin de Langogne, sur la commune de Saint-Étienne-de-Lugdarès, plus précisément dans le hameau des Hubacs. Ici, une jeune fille, Jeanne Boulet, 14 ans, garde seule le maigre troupeau de sa famille. Il y a là quelques brebis, quelques vaches. On n'entend rien d'autre que bêlement, meuglement et le vent qui siffle dans les arbres. Il fait doux. Nous sommes un 30 juin, l'un des rares moments de l'année où dans le Gévaudan, il n'y a ni neige, ni pluie, ni grêle. Car c'est un pays particulièrement âpre. Ce sont des montagnes séparées par des vallées qui piègent le brouillard et au fond desquelles, encaissées, quelques hameaux dispersés subsistent comme ils peuvent. En haut, sur les plateaux bornés par des ravins et encerclés par la forêt, ce sont de grands bourbiers trempés, traversés par les bourrasques, sur lesquels on fait paître le bétail. Jeanne Boulet attend. Que fait-elle? Rien, hormis prendre garde à ce que le troupeau ne se disperse pas. Elle passe le temps. Le soleil se couche, elle ne va pas tarder à redescendre avec les bêtes. Mais elle ne sait pas que juste à côté d'elle, dans l'ombre des pins et des bouleaux, quelque chose est tapis, là, les yeux rivés sur elle. Dans la pénombre et le silence de la forêt, une bête attend le bon moment. Peut-être que les vaches, elles l'ont senti. En tout cas, elles sont inquiètes, elles s'agitent. L'attaque est toute proche.
Doucement.
Ce soir du 30 juin 1764, Jeanne Boulet ne rentre pas chez elle. On retrouve son corps à moitié mangé, parmi les brebis et les vaches, qui paisiblement continuent à brouter. Ce qui reste de la jeune bergère est enterré le lendemain. Sur les registres de la paroisse, on lit l'an 1764 et le 1er juillet a été enterrée Jeanne Boulet sans sacrement, ayant été tuée par la bête féroce. Voilà le début de l'affaire qui, pour les mois à venir, tient en haleine la France et l'Europe. Quelques mois plus tard, le 16 novembre, un premier journal, le Courrier d'Avignon, écrit.
On écrit du Bas-Languedoc qu'une bête féroce qui a dévoré à Langogne 22 personnes s'est jetée du côté de Mende, où elle en a encore dévoré 8. L'évêque de Mende, sensible aux alarmes que ce cruel animal a répandues dans les paroisses de son diocèse, paye journellement un bon nombre de paysans pour tâcher de le détruire. On lui a tiré plusieurs coups de fusil, mais ils n'ont fait qu'effleurer sa peau et lui arracher une partie de la fourrure. Cette bête est plus grosse qu'un chien. Bien des gens la croient une hyène et d'autres une panthère qui s'est échappée des mains de son conducteur. Monsieur Duhamel, capitaine, est actuellement à sa poursuite avec 50 dragons et 1200 paysans, de sorte qu'on attend incessamment la destruction de ce cruel animal.
Fin novembre 1764, on entre dans la morte saison, la plus mauvaise. Dans les montagnes du Gévaudan résonne le tocsin de chaque église, assourdi par la neige qui tombe sur le pays. Tous les habitants de plus de 14 ans sont appelés à participer à la plus grande battue qu'ait connue la région. Combien de morts depuis le 30 juin et la découverte du corps de Jeanne Boulet ? Plus de 20. Tous, ou presque, sont des enfants, bergers ou bergères, retrouvés mutilés, une cuisse arrachée, les poumons entamés, les entrailles vidées. Dans les petits cimetières, on enterre des corps sans tête, et parfois pire, des têtes sans corps.
Le 1er juillet, une jeune fille, Jeanne Boulet, de la paroisse de Saint-Étienne de Luc d'Arès. Le 8 août, une jeune fille de 15 ans, de Mas-Méjean. Le 1er septembre, un garçon de 14 ans, à Pradel, paroisse de Chaudérac. Le 15 décembre, Catherine Chastan, de La Fage, paroisse de Védrine-Saint-Loup, en Auvergne. Le 20, une fillette de 10 ans. Le 22, une jeune fille à Prades.
Fusils à la main pour ceux qui en ont, sinon armés de fourches, ils sont des milliers à ratisser le pays pour chasser la bête qui court depuis des mois. À la tête de cette battue, il y a un capitaine, un certain Duhamel. Il se déplace avec ses 56 soldats, des dragons. Ils sont dans la région depuis un mois. Leur veste était rouge écarlate, elles sont maintenant tachées de boue. Leur casque en cuivre pèse lourd et leurs chaussures sont trempées. Ils courent le pays, appelés tantôt à un bout, tantôt à l'autre. Ils sont harassés et passent leur nerf sur les habitants dont ils ne comprennent pas la langue. Des jours durant, on bat la campagne, on suit les cris des chiens, on plante sa fourche dans chaque buisson qui bouge, mais rien, la bête s'échappe. Si dans les Gévaudan, on ne danse pas avec les loups, on les connaît bien, on vit avec, ils font partie du décor. Mais cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu bête aussi cruelle. Et encore plus longtemps qu'on ne s'était pas senti observé par tout le pays. Qui en France s'est situé le Gévaudan avant cette année 1764 ? On apprend à Paris et ailleurs l'existence de cet endroit niché là-bas au fond du Languedoc, entre les Cévennes et les montagnes de la Marguerite. De toute façon, on n'appelle plus cet endroit que le pays de la bête. Et on attend chaque semaine de lire les comptes rendus que fait la presse de cet endroit misérable. Parce qu'ici, on ne vit pas, on survit, péniblement. On fait pousser un peu de blé noir, de seigle et de lentilles. Chaque famille a ses animaux que les enfants vont garder pendant que les adultes travaillent de mauvaises terres. C'est une région où la faim se lit sur les organismes. On est tout petit, frêle. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui dépassent 1m60. Les adolescents n'ont rien à voir avec aujourd'hui, et les plus vieux se souviennent encore de la peste. Ce sont des vallées dans lesquelles l'Église a du mal à s'étendre et à se faire entendre, où l'on est partagé entre la messe et les superstitions. Presque personne ne sait lire, on ne parle pas français. Cette région fascine les salons parisiens, qui ont le sentiment de vivre, en lisant les journaux, comme un voyage dans le temps. Parce qu'à Paris, le progrès scientifique et philosophique des Lumières est à son apogée. On lit Voltaire, Rousseau, Diderot, mais aussi Buffon, oui, le père du naturalisme, directeur du Muséum d'Histoire Encyclopédie. Dans le 7e volume, on y lit la description la plus poussée jusque-là du Canis lupus, autrement dit le loup. Le loup, écrit Buffon, est l'un de ces animaux dont l'appétit pour la chair est le plus véhément. Et quoiqu'avec ce goût il ait reçu de la nature les moyens de le satisfaire, il meurt souvent de faim, parce que l'homme lui a déclaré la guerre. Et il ajoute, il est naturellement grossier et poltron. Dit comme ça, on a l'impression qu'on parle de l'humain, tant le portrait correspond. Mais non, Buffon, au contraire, illustre parfaitement cette pensée de l'époque des Lumières. L'homme est au-dessus de la nature. Il la mesure, il la contrôle, il l'exploite. Mais dans le Gévaudan, c'est une autre histoire qui s'écrit. Et de la bête, le capitaine Duhamel, en charge de sa destruction, donne une description bien à lui.
Cet animal est de la taille d'un taureau d'un an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes à chacune, de la longueur d'un doigt. La gueule est extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras et au moins 4 pieds de longueur, le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau et étincelants, les oreilles courtes, comme celles d'un loup, étroites, le poil du ventre blanchâtre, celui du corps rouge avec une raie noire large de 4 doigts depuis le col jusqu'à la naissance de la queue. Cet animal est un monstre dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère.
Que doit-on comprendre dans ce portrait ahurissant écrit par le capitaine Duhamel ? Que c'est un homme orgueilleux et qu'il n'est pas question que la bête qu'il traque soit un simple loup. Oui, il a tout intérêt à forcer le portrait, car s'il échoue depuis des semaines, c'est que la bête du Gévaudan est une abomination de la nature, voilà. Il faut dire que dans le coin, chaque ferme a son histoire. Dans ce pays de croyance, on dit qu'il s'agit d'une panthère, d'une hyène, d'un léopard, d'un gros singe, ou qu'elle a des écailles sur le dos. On lui prête le don d'ubiquité, ou celui d'être invisible, ou même de parler. Puis on dit qu'on l'a vu fumer, rire ou marcher debout. On accuse des loups-garous, des sorciers qui éviteraient les balles des fusils. Alors, dans les journaux, les représentations se multiplient, toujours plus effrayantes. On voit la bête, énorme, les crocs serrés, la langue pendante, régnant sur un territoire désolé, des squelettes humains à ses pieds. Pour les toutes récentes gazettes françaises, la bête est un formidable feuilleton, comme l'écrit le Courrier d'Avignon.
Il ne se passe rien en France, ni dans tout l'univers, dont nos curieux soient aussi empressés d'être instruits qu'ils le sont de ce qui se passe dans le Gévaudan. Les ravages d'Attila n'occupaient peut-être pas tant les nouvellistes de son temps que ceux de la bête féroce occupent les nôtres. On les entend sans cesse demander d'elle ce qu'ils en ignorent ou raconter ce qu'ils en ont appris de nouveau. Tant que cette cruelle bête vivra, elle fera chez nous la matière de conversation journalière. Or, elle vit encore, cette fameuse bête, et les sanglants exploits continuent.
Et l'intérêt ne se limite pas à la France. C'est de toute l'Europe qu'on accourt. D'Angleterre, de Prusse, de Hollande, on vient prendre les dernières nouvelles de cet événement anachronique. On lit même les nouvelles de la bête jusqu'en Amérique, au Québec et aux États-Unis. On se demande aussi, plus rationnellement, comment, dans le pays du roi Louis XV, on peut continuer à se faire manger par des bêtes sauvages qui ne sont évidemment ni des hyènes, ni des panthères, mais de simples loups. Louis XV sort d'une guerre, celle de 7 ans, qu'il a perdue contre les Anglais et les Prussiens. La bête du Gévaudan est donc une nouvelle humiliation internationale. « 31 décembre 1764, cathédrale de Mende, aujourd'hui chef-lieu de la Lozère. les croyants de toute la région se retrouvent à la veille d'entrée dans une nouvelle année. Mais là, ni flonflon ni festivité. On a peur, on a froid, et on se serre sur les bancs comme des brebis en danger. Il faut dire que quelques jours plus tôt, une femme de 45 ans a été retrouvée à moitié mangée, la tête à 70 mètres du corps. Puis ça a été le tour d'une jeune fille de 15 ans, à l'autre bout du pays. Les attaques viennent de partout. Il paraît que la bête a encore échappé de peu à Duhamel. Ici, on a entendu dire que le capitaine fourrait maintenant du poison dans les cadavres et attendait qu'elle revienne, la bête, mais que ça ne donnait rien. L'église bruit des dernières informations et rumeurs. Mais ce bourdonnement angoissé s'arrête soudainement quand un vieil homme apparaît. Il a 80 ans. Il porte un costume noir et il remonte la nef vers le chœur, le pas fatigué et la mine préoccupée. C'est l'évêque de Mende, qui est aussi comte de Gévaudan, un certain Choiseul Beaupré. Il agrippe la rambarde de la chaire et monte péniblement les marches en bois en les faisant grincer. Parvenu en haut de sa tribune, dominant les fidèles, il leur délivre son message.
À peine commencions-nous à goûter les douceurs de la paix, qu'elle a été troublée par de nouveaux malheurs. La mortalité des bestiaux, le dérangement des saisons, les grêles et les orages ont porté la désolation et la stérilité dans nos campagnes. Ils ont enlevé aux laboureurs, d'ailleurs sans ressources, le pain nécessaire à sa subsistance et qu'il avait arrosé d'avance de sa sueur et de ses larmes. Mais toutes ces choses n'étaient que le commencement des douleurs et les faibles préludes de ce qui devait nous arriver dans la suite. Ce premier malheur étant passé, en voici encore deux autres qui suivent. En voici un troisième plus terrible que tous ceux qui nous ont précédés. Vous ne l'éprouvez que trop, nos très chers frères. Ce fléau extraordinaire, ce fléau qui nous est particulier et qui porte avec lui un caractère si frappant et si visible de la colère de Dieu contre ce pays.
On n'a pas de réponse rationnelle, scientifique, la seule qui vaille. Donc c'est la colère qui s'exprime, et la bête, c'est le fléau de Dieu. C'est bien ce que les croyants imaginent. Dans ce pays, marqué par la guerre contre le protestantisme, gravement fauché par la peste 35 ans plus tôt, la bête qui rôde ne peut être qu'un châtiment divin. Regardez cette époque où les mœurs se libèrent, jusque dans les villes de province, ces jeunes filles qui s'apprêtent et les bancs des églises qui se vident. Et bien voilà, la bête nous rappelle à l'ordre. Le discours de l'évêque terminé, les fidèles rentrent dans leur vallée pour répandre son message apocalyptique et les prières qu'il convient de faire pour que tout cela prenne fin. Après l'emballement médiatique, vient l'emballement religieux. Quelques semaines plus tard, quand ils reviendront, les croyants verront placardée sur le portail de leur cathédrale, comme sur toutes les églises de comté, une affiche signée du roi lui-même.
Searching and hoping.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la bête du Gévaudan.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le roi accorde une somme de 6000 livres à celui qui tuera cette bête et a ordonné que lorsqu'elle sera tuée, qu'elle soit vidée et arrangée pour en conserver la peau et même le squelette qui serait envoyé ici pour être déposé au jardin du roi.
6000 livres, ajoutés aux 400 promises par les diocèses de Mende et de Viviers, aux 600 de l'intendant d'Auvergne, aux 1000 proposés par l'évêque et aux 2000 proposés par les États du Languedoc, la prime pour tuer la bête du Gévaudan équivaut aujourd'hui à plus de 100 000 euros. Ce qui, pour les habitants de cette région, à l'époque, est une somme à la limite de l'inimaginable. Et puis, l'humiliation a trop duré. Chez l'ennemi anglais, on ne voit en la bête qu'un loup carnassier, comme il en existe partout ailleurs. Et on écrit pour se moquer qu'après avoir échappé à une armée de 120 000 hommes, l'animal a été repoussé par une chatte dont elle avait mangé les chatons. Albion est décidément perfide. Et voici maintenant les chasseurs de primes. Venus de toute la région, de toute la France et même d'Espagne et d'Italie, voilà qu'ils affluent dans les Gévaudan. Il y a une chanson d'ailleurs qu'on reprend un peu partout. Courage, chasseurs de France, partez pour les Gévaudan, pour suivre cette bête qui ravage le pays, et votre fortune est faite si vous remportez le prix. Dans cette atmosphère de western médiéval, le capitaine Duhamel est renvoyé par le roi, après, il est vrai, 5 mois d'échec. Sa dernière ruse, envoyer ses dragons dans la forêt déguisés en femmes pour attirer la bête, qui serait une sorte de sériole féminicide. Le capitaine Duhamel, lui, quitte le Gévaudan, les habits crottés et la tête basse.
Il est bien malheureux pour mon détachement et pour moi, après 5 mois de peine et de fatigue, et avoir essuyé toutes les horreurs de l'hiver, de se voir forcé de rentrer dans une saison qui n'offre que de l'agrément à continuer une chasse dont le succès était si intéressant pour ma gloire et si avantageux pour le bien-être de mon détachement.
Et s'il ne s'agissait pas d'une bête, mais de plusieurs? Et si les têtes arrachées n'étaient pas le fait d'un monstre apocalyptique, mais la signature des loups, comme les Anglais le disent? Les loups, quand ils attaquent les humains, choisissent les plus faibles physiquement, les femmes et les enfants, c'est bien connu. Ou bien sûr, dans le pays, beaucoup le pensent, mais l'affaire est beaucoup trop engagée, exagérée, fantasmée, pour s'arrêter à une explication aussi terre-à-terre que celle du loup. Duhamel et l'évêque de Mende en ont fait une abomination pour servir leurs intérêts. La presse en fait un monstre pour vendre ses journaux, forçant le roi à se pencher lui-même sur cette sombre histoire. Sur les registres d'enterrement, on parle de bêtes féroces, de bêtes dont on ne sait pas le nom, de bêtes qui mangent le monde. On chasse un monstre et le calme ne reviendra pas avant qu'on ne retrouve un monstre. Alors on engage de nouvelles battues, toujours plus grandes, toujours sous la pluie, la grêle ou dans le brouillard. Les nouveaux envoyés de roi courent de nouveau le pays, empoisonnant de nouveaux cadavres et posant de nouveaux pièges. Et ils tuent des loups, beaucoup, mais jamais la bête, qui partout où elle passe continue son carnage. Des enfants, des adolescentes, des vieilles dames constituent toujours le festin de la bête. Et puis certains jours, elle a plus faim que d'autres. Le 21 juin 1765, par exemple, elle tue 3 personnes dans la même journée. Et une question se pose. Mais pourquoi donc les habitants continuent-ils à envoyer leurs enfants garder les troupeaux alors qu'ils peuvent se faire dévorer? Eh bien parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est toute l'économie du pays qui repose sur cette répartition des tâches. Même méthode, mêmes échecs. Les habitants vivent dans la terreur et sont épuisés par les battues qui n'en finissent pas. Les successeurs de Duhamel sont renvoyés à leur tour à l'été 1765, remplacés par un certain François-Antoine de Beauterne, porte-arquebuse du roi, c'est-à-dire l'officier qui porte son fusil quand il part à la chasse. Alors que lui dit-il le roi à François-Antoine avant qu'il ne parte pour les Gévaudan? Eh bien, on ne sait pas, mais on peut l'imaginer. Il faut se débarrasser de cette affaire, quel qu'en soit le prix. Entrons d'ailleurs dans le pays de Gévaudan avec Antoine de Beauterne, arrivant de Versailles sur son beau destrier, portant son riche costume, Versailles quoi, et avec ses quelques tireurs et ses chiens.
C'est un pays de montagne.
la plupart très élevées, séparées les unes des autres par des gorges ou des vallées profondes. Elles sont couvertes de bois bien fourrés, favorisant la retraite des loups et des bêtes féroces. Pour un trajet où l'on ne mettrait qu'une heure, si on pouvait le faire à vol d'oiseau, on en emploie 3 ou 4. J'ai l'honneur de vous faire observer, messire, que depuis 50 ans que j'ai exercé des chasses de toutes sortes, tant en France qu'en Allemagne, au Piémont et les Pyrénées, je n'ai jamais vu de pays pareil à celui-ci, aussi difficile.
6 juillet 1765. On a enterré la veille Marguerite Oustalier, 68 ans. Enfin, ce qu'il en reste. François-Antoine est sur les lieux de l'attaque, du côté de l'Orcière, aujourd'hui dans le Cantal, limitrophe de la Lozère. Ses chiens reniflent frénétiquement autour de lui dans les broussailles. Antoine remonte la piste du sang, met pied à terre, écarte les buissons. Toujours plus de sang. C'est comme si la victime avait été saignée avec un couteau. Là, par terre, couvert de boue et de sang coagulé, il y a des bouts de tissu. Plus loin, un chapeau déchiré. Et tout le long, bien marqué dans la terre, les empreintes d'un loup. 4 griffes et une paume, mais plus grande que d'habitude. Un gros loup. François-Antoine connaît les bêtes. Il ne croit pas au monstre du Gévaudan. Il sait que cette nouvelle victime a été tuée par un loup et qu'il y en a plusieurs dans la région qui s'attaquent aux humains. Mais il sait aussi que cette théorie ne satisfait personne. Et alors qu'il remonte sur son cheval et qu'il quitte ce triste spectacle, la troupe se fige. On entend au loin un hurlement animal qui glace le sang. Un loup nargue les chasseurs. L'été avance et François-Antoine, comme les autres, n'arrive à rien. La morte saison approche. Nous sommes le 20 septembre 1765, plus d'un an et demi depuis la première victime. Le gel et le brouillard sont déjà là. Il faut en terminer avec cette histoire de bête avant l'hiver. François-Antoine est posté au-dessus du croisement de plusieurs sentiers quand il voit un grand loup à 40 mètres de lui. Il a son fusil au plus gros calibre. Il met la bête en joue et tire. La balle est tellement chargée de poudre qu'il est propulsé en arrière et tombe à la renverse. Il se relève, il regarde en contrebas. Le grand loup est touché à l'œil et au flanc. Il vacille, tombe, se relève. Et le voilà maintenant qui charge comme il peut. François-Antoine n'a pas le temps de recharger. Alors il voit, paniqué, le loup blessé s'approcher. Il sort son couteau et s'apprête au combat quand il entend un nouveau tir. Et qu'il voit le loup à quelques mètres de lui encaisser un coup, battre en retraite, puis s'effondrer. François-Antoine reprend ses esprits. Il salue le tireur à côté de lui, reprend son souffle. La bête est morte. Oui, il s'agit bien d'un loup qui a mangé les hommes. L'examen de ses entrailles le confirme. Et près de 30 témoins le reconnaissent. C'est un très grand loup, aux dimensions impressionnantes. Mais ce n'est qu'un grand loup. Et maintenant qu'il est mort, il faut l'amener à Versailles pour clore l'affaire. Mais va-t-on ramener ce qui n'est qu'un gros loup ? François-Antoine fait venir un médecin, 3 chirurgiens et 2 assistants pour que l'animal prenne des allures de monstre. Alors il bricole un modèle en bois aux dimensions des descriptions affolantes qu'on lit dans les journaux. Et pendant 4 jours, on embaume le loup, on lui tire la peau pour qu'il paraisse plus grand. On lui peint le poil en rouge et noir, on lui forcit le crâne, on lui ouvre la gueule, on lui retrousse les babines et on le met en position d'attaque. C'est ce loup-là qui arrive à Versailles le 1er octobre 1765 et que le roi, la cour et les journalistes découvrent derrière un drap blanc, avec quelques applaudissements mais sans grande conviction. Malgré les efforts des chirurgiens, la bête reste un gros loup. Un écrivain anglais présent sur place, Horace Walpole, écrit.
Le roi, le dauphin, la dauphine, mesdames et la bête sauvage n'ont pas dit un mot. Oui, la bête sauvage, le monstre du Gévaudan. Il a été tué et le voici dans l'antichambre de la reine. C'est un très grand loup Et disent les connaisseurs, il a 12 dents de plus qu'un loup n'a jamais eu depuis l'époque de la nourrice de Romulus.
Mais alors que la cour se félicite d'avoir mis fin à l'humiliation, alors que François-Antoine reprend ses appartements bien plus confortables que ceux du Gévaudan et que le roi est soulagé de clore cette histoire, sur place, on s'agite de nouveau, parce qu'on retrouve d'autres morts. Il y a donc eu accalmie, mais elle n'a pas duré. Début décembre, 2 mois après la présentation au roi, on dénombre 2 nouvelles victimes. Le 21, une femme égorgée. Le 4 mars, un enfant de 8 ans. Et d'autres tout au long de l'année 1766, et d'autres encore en 1767. La cour est bien au courant, la presse aussi. Mais c'en est fini de la bête du Gévaudan. C'est une histoire qu'on ne veut pas rouvrir et qui ne fait plus vendre. Le Gévaudan se retrouve de nouveau attaqué, mais cette fois seul et pendant 1 an et demi. Arrive juin 1767. Cela fait bientôt 3 ans depuis la première victime et 18 mois depuis que François-Antoine a tué un gros loup. Devant une nouvelle vague d'attaques, les habitants du Gévaudan reprennent le chemin des processions. Des cortèges empruntent les sentiers qui conduisent à Notre-Dame-des-Tours, une chapelle en pierre construite dans le creux de collines escarpées. Puis à Notre-Dame-de-Beaulieu, à l'ombre du mont Chauvet, à 1485 mètres, l'un des points culminants du Gévaudan. On dit que dans ce cortège se trouve un homme, un paysan de 50 ans. Il a les cheveux blancs, trapu, il est connu dans le pays pour être quelqu'un de brutal. Il a même très mauvaise réputation. On dit qu'il est fils de sorcier. Son nom, Jean Chastel. Et Jean Chastel, dit la légende, fait bénir son fusil à la lueur des cierges. On dit aussi qu'il fait fondre des balles avec des médailles de la Vierge. Bon, tout cela, on le dit. Mais ce qu'on sait, c'est que Jean Chastel, le 19 juin 1767, à 10h15, tue un loup pendant une battue. Un loup plus grand que les autres. Alors, la légende se transmet sur plusieurs générations. Plus de 2 siècles plus tard, en 1980, Guy Orlac, un agriculteur du Gévaudan, raconte.
Jean Chastel était à côté de son fils Antoine. Jean Chastel était un homme très spirituel. Il lisait les litanies de la Vierge. Quand à 20 pas de lui, la bête se rugit. Jean Chastel plie ses lunettes, les met dans sa poche. Il dit à son fils, là voilà la bête. Il tire, la bête est atteinte à l'épaule. La bête ne bouge plus. Les chiens accourent et renversent la bête. Jean Chastel s'approche et dit, bête, tu n'en mangeras plus,
Mais qui, véritablement, prend le temps de terminer sa prière, de ranger son livre et de plier tranquillement ses lunettes quand il est chargé par un loup qu'on accuse d'avoir déjà tué une centaine d'hommes? Mais il fallait une fin légendaire à cette histoire légendaire. Ce que l'on raconte moins, c'est la tournée que fait Jean Chastel dans les villages en remontant vers Paris pour réclamer sa prime, avec son loup, cette fois mal embaumé, qui de jour en jour, en cette saison chaude, empeste toujours plus. Il traîne son cadavre en décomposition jusqu'à Fontainebleau. La bête, attaquée par les vers et à qui il ne reste plus beaucoup de poils, est examinée par Buffon lui-même. Puis elle est enterrée, très certainement dans des jardins situés dans l'actuelle rue Bonaparte, à Paris. C'est ainsi que Buffon conclut cette sombre affaire, résurgence moyenâgeuse d'une France pourtant des Lumières. Cette bête que le Gévaudan tient pour celle qui a mangé 100 personnes, qui a terrorisé tout le pays et humilié le roi en Europe et jusqu'en Amérique, cette bête n'était en fait qu'un gros loup.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la bête du Gévaudan. Notre invité Jean-Marc Morisseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans les studios de France Bleu Normandie, professeur émérite de l'université de Caen-Normandie, spécialiste des sociétés rurales et du rapport entre l'homme et le loup, et surtout auteur du livre intitulé « La bête du Gévaudan, mythe et réalité », paru en 2021 chez Talendier. Alors, quel est l'intérêt pour vous, historien, de vous pencher sur l'affaire de la bête du Gévaudan ?
Cette affaire est exceptionnelle. D'une part parce qu'elle éclaire un éclairage lumineux des réalités sociales, économiques, culturelles et environnementales qu'on n'aurait pas imaginées au XVIIIe siècle. Mais d'autre part parce que elle a suscité un flot d'interprétations artistiques, idéologiques, passionnées, qui ont fait planer jusqu'à l'émission d'aujourd'hui, y compris dans ce qu'on vient d'écouter, toute une série, en quelque sorte, de fantasmes et de mythes.
C'est pour ça que la presse s'en est emparée, parce que les attaques de loups, c'est affaire relativement courante dans cette région, et à l'époque.
Alors la presse, elle s'en est emparée, parce que le rôle de la presse, c'est évidemment de diffuser des faits divers qui permettent de changer par rapport à l'actualité politique en général ou religieuse qui était mise en avant depuis le XVIIe siècle. Dès que la presse est créée en France, avec la Gazette de France, en 1634-35, eh bien, il y a des faits divers sur une bête du Gévaudan en Normandie qui sévit au sud de Caen, qui fait des dizaines de victimes. Puis ensuite, toujours dans la Gazette de France, un an après, une autre bête également qui sévit autour d'Évreux, qui fait également des dizaines de victimes.
Oui.
Simplement, en 1764, en novembre 64, d'une part, il y a un journaliste qui est très intelligent et très à l'affût de ces faits divers, c'est Morenas à Avignon, qui est à la tête d'un journal de grande diffusion qui s'appelle le Courrier d'Avignon et qui va bien au-delà d'ailleurs du Midi Libre d'aujourd'hui. Mais à l'époque où il agit, la presse s'est beaucoup développée, elle s'est structurée et internationalisée. Si bien que la Gazette de France, l'organe national, reprend très vite ce que dit Morenas et cela va également être diffusé en Allemagne, à la Gazette de Cologne, au London Chronicle en Angleterre et puis aux colonies franco-américaines du Canada en même temps, parce que la presse constitue un réseau international sérieux, très développé depuis plusieurs décennies, et parce que la bête du Gévaudan, tout au moins la première bête, celle qui est célèbre, elle est intervenue au bon moment, alors que l'actualité tournait au ralenti, après la fin de la guerre de 7 ans, une grave crise, une guerre internationale, et donc elle n'avait pas de concurrente également du côté d'autres bêtes, comme elle en aura ensuite en 1766 et 67, où là les lumières, les projecteurs s'éteindront.
Alors, dans l'affaire de la bête du Gévaudan, bien sûr, la bête tient le rôle principal, mais le second rôle, tout aussi important d'ailleurs, c'est le Gévaudan lui-même. Alors, on a l'impression, quand on le découvre, de parler d'un monde perdu, hors du temps.
D'autant plus que c'est l'époque où les philosophes ou les physiocrates pensent au progrès économique, font de l'agriculture le socle de la richesse de la France, et où on crée les premiers comices agricoles, les premières sociétés d'agriculture. On est dans un climat de progrès, de développement intellectuel, marqué également par l'encyclopédie, évidemment, et par l'histoire naturelle de Buffon, parmi bien d'autres auteurs. Or, arrive en pleine lumière, dans cette actualité, dans cette opinion publique qui est vraiment irriguée par ces éléments de progrès intellectuel, une sorte d'archaïsme auquel on ne s'attendait plus, c'est-à-dire celui des montagnes méridionales, entièrement isolées de toute communication pendant 3, 4 ou 5 mois l'hiver. La neige et le brouillard ont d'ailleurs favorisé et le maintien de la bête du Gévaudan. Et avec cet environnement, il y a une société très pauvre qui est très dispersée dans des petits villages avec des préoccupations de subsistance et pas d'enrichissement. Et donc, en quelque sorte, l'image des campagnes d'Île-de-France ou des campagnes du bassin parisien est contrebalancée complètement avec cette bête du Gévaudan par des images de paysans archaïques et périphériques.
Alors, autre inversion des valeurs, là, c'est la nature qui domine l'homme, alors que dans la philosophie des Lumières, spéciste, hein, c'est l'homme qui doit dominer la nature. Est-ce que cette blessure intellectuelle explique le succès de cette histoire ?
Alors, oui, d'une certaine manière, puisque l'homme cherche à effectivement dominer la nature et à assurer sa sécurité également par rapport aux espèces dangereuses en tant que premier dans l'univers, dans une conception du monde où la supériorité de l'homme est manifeste. Et cette conception, elle est remise en cause régulièrement d'ailleurs, hein, depuis des siècles et des siècles, et encore avant la bête du Gévaudan, et pendant, par des épidémies terribles, mais qui commencent maintenant à se réduire depuis 1720, puisque la peste a disparu. Il y en a d'autres, mais elles sont moins graves. Et puis par des attaques de loups, qui étaient des fléaux secondaires, mais qui passent au premier plan depuis que la guerre ou la peste n'est plus là, en quelque sorte. Alors, effectivement, il y a un choc, en quelque sorte, mais un choc qui profite également aux discussions de salon, aux affiches, aux images. Il y a énormément d'images qui exploitent cette bête du Gévaudan, à Paris d'abord, hein, et dans les grandes villes. Et ensuite, il y a des conversations, il y a des articles de journaux qui sont lus dans les cabarets, surtout dans les petites et grandes villes d'ailleurs, beaucoup plus que dans les campagnes.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Jean-Marc Morisseau, cette histoire de bête du Gévaudan est vraiment ce qu'on appelle une histoire qui est transmise par la tradition orale. Et c'est vrai que nous l'avons raconté, nous aussi, il y a quelques minutes, avec délectation et gourmandise. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs une archive qui fait l'écho de cela. C'est un grand-père qui raconte une histoire au coin du feu à ses petits-enfants. C'était dans un documentaire de 1964.
Si bien, vous avez bien entendu parler de la bête du Gévaudan, eh bien je vais te dire ce que c'était. C'était un gros loup qui avait des oreilles longues, des grosses pattes, des gros yeux, et il ne trouvait pas à manger. On lui dit, va à Mende, probablement tu trouveras de quoi te satisfaire. Et il est venu, et il s'est adressé donc dans une maison, et le patron leur a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens manger parce que j'ai faim. Et le patron leur a dit, j'ai rien à te donner. Et alors le loup a dit, mais moi je veux manger les petits-enfants. Le patron a dit, non. Et ils sont montés dans une chambre où les trois petits-enfants étaient couchés. Il les a découverts, quand il les a vus, ils avaient le sourire, ils dormaient, et le loup a dit, non, je veux retourner chez moi. Le soir, il a trouvé sa femme, il a dit, je viens de Mende, j'ai rien trouvé à manger. Et la femme lui a dit, écoute, puisque c'est comme ça, tu es calé au Chastel. Et au Chastel, le gros loup a eu des petits-enfants, et c'est M. Ménatori qui les a ramassés. Il les a mis dans un parc, et c'est la raison pour laquelle, encore, vous voyez des loups qui sont les petits-enfants de la bête du Gévaudan. Et vous, tu crois bien, hein, ils n'ont pas mangé les petits-enfants parce qu'ils étaient trop sages.
C'est comme ça, Jean-Marc Morisseau, que la bête du Gévaudan est devenue une sorte de croque-mitaine.
Alors, en partie, je pense qu'il faut faire très attention, parce que dès que cette bête du Gévaudan sort du circuit historique pour être dans le circuit médiatique, jusqu'à aujourd'hui même, eh bien, elle se colore d'éléments qui peuvent être pris à partie, évidemment, parce qu'ils sont trompeurs. Hein. Jeanne Boulet, par exemple, elle n'avait pas des brebis avec elle, hein, ou des chèvres. C'est complètement faux. Elle gardait des vaches, hein, comme tous les enfants, d'ailleurs, de cette époque. Les brebis étaient gardées par des bergers professionnels, dans des grands troupeaux, très protégés, etc. D'autre part, Louis XV n'a pas été humilié du tout. On parle d'humiliation, c'est véritablement un anachronisme. Hein. On exagère beaucoup, parce que beaucoup de personnes qui ont écrit sur la bête du Gévaudan n'ont pas de formation scientifique à l'histoire et contextualisent pas. Hein. Mmh. Louis XV, il avait bien d'autres chats à fouetter, comme l'affaire des jésuites en particulier, ou bien les réformes fiscales, pour se sentir humilié par la bête du Gévaudan. Simplement, comme père de son peuple et comme beaucoup de rois de France, il était tenu au courant par ses ministres, évidemment, et ses intendants de ce qui se passait, et il était soucieux du bien de son peuple. Le mandement de l'évêque de Mende, pareil, c'est simplement, il faut bien le voir, un procédé qui consiste à exploiter d'une manière pastorale les événements dramatiques qui existent pour assurer une meilleure conversion des populations. Et d'ailleurs, on ne lit jamais la fin du mandement de l'évêque Choiseul-Beaupré, on a tort. Et il dit à la fin de son mandement, mais je vous ai fait peur, évidemment, mais cette bête n'est pas un mythe, c'est une réalité, on peut la tuer à coup de fusil, et il faut que les curés prennent la tête des paroissiens pour la tuer. Enfin, le travestissement, en quelque sorte, du loup tué par Antoine, c'est faux également. Aucune source historique ne le montre. Simplement, il fallait conserver effectivement une dépouille importante, et il y a eu des chirurgiens qui ont apprêté cette dépouille, qui l'ont mise en position menaçante. C'est ce qu'on fait toujours dans les trophées, de toute façon. Et puis, c'était quand même un grand loup de 130 livres, 65 kilos. C'est pas les plus grands loups, il y a eu des loups jusqu'à 80 ou 100 kilos, mais c'est rarissime, ces loups-là. Hein. Ouais. Et il faut voir combien pesaient les enfants et puis les femmes de cette époque-là. Ils n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Donc, il faut raison garder et surtout contextualiser.
Bien, écoutez, je vous remercie Jean-Marc Morisseau pour toutes ces précisions, ces éclairages. Je rappelle le titre de votre livre, La bête du Gévaudan, mythe et réalité, réédité en 2021 chez Talendier. Merci, au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, La bête du Gévaudan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.